Bien, excusez-moi. Oui, alors donc, quelle est cette idée? Ça correspond à quel. N'importe quel imbécile qui veut berner un autre, qui veut tromper un autre, première chose, il change ses habits. Quelle idée? Comment?
Pas de nos jours. Pas de nos jours, sérieusement, par exemple, la chirurgie esthétique et se faire faire le visage, on pourrait autant changer ses vêtements.
Mais si tu veux tromper quelqu'un, oui, tu veux changer que la voix. Tu changes tout.
Non, mais regardez, c'est n'importe quoi. Par exemple, vous savez, Ehud Barak, c'est le mec qui a été Premier ministre et les ministres des Affaires étrangères. Le mec, il a été agent secret, je ne sais pas quoi, du Mossad il y a 30 ans. Il était allé à Beyrouth. Il s'est déguisé en collaborateur de Yasser Arafat. Et il a égorgé un des proches de Yasser Arafat. Il était donc déguisé avec le kéfier et tout. N'importe quel imbécile comprend ça, je veux dire.
Non, mais il voulait c'est... Évidemment, ça paraît clair qu'ils sont pas idiots et qu'en fait, ils voulaient qu'il y ait cette...
Mais il voulait pas qu'il était sans bidégumeux schronté.
Mais si.
Il voulait pas. Il voulait pas. Rachidi, il voulait qu'Israël... Comme ils ont compris, voilà, c'est vraiment, c'est des mecs, ça a l'air d'être des benets. Ils ont compris que la force d'Israël, c'est la prière. Ils en ont pris une raclée à cause de ça. Ils sont arrivés à la guerre contre Israël, et Israël qui se sont fait, bon, Yoshua est allé faire la guerre, mais en vérité, c'est Moshe qui a prié. Et c'est la prière de Moshe qui a sauvé Israël. Très bien, magnifique. Maintenant, on ne va plus nous y reprendre. On va se déguiser en Cananéen. Donc, ils prennent un stage à Berlitz, rapide. Ouais, et ils apprennent le suédois. Et maintenant, ils vont à la guerre entre eux. Ouais, le commando qui va faire la guerre contre Israël parle suédois. Pour qu'Israël dise, ô éternel, sauve-nous des Suédois. Par contre, ils ont gardé les habits d'Amalécite. Israël, ouais, Amalécite ou Suédois? Ils ont dit, bon, voilà. Donc, ils ont dit, sauve-nous de ce peuple. Voilà, ça, c'est ce que Rachid dit. Ah non, mais Rachid, c'est quoi l'idée? C'est quoi la problématique? C'est pour nous dire que la Malécite, c'est vraiment, ils ont des têtes, ils ont d'un morceau de parpaing à la place du cerveau.
En fait, ils sont bêtes.
Comment? Oui, alors quel est le message? Je veux dire, savoir qu'il y avait il y a 3000 ans, 3300 ans, des imbéciles sont attaqués à Israël. Bon, je sais pas, ça m'apprend rien, moi. Comment? Oui, c'est comme les Dalton, ils sont plus bêtes que méchants.
Mais il y a aussi une autre chose, c'est que en fait, Israël n'a pas demandé qu'il soit sauvé des Amalécites.
Non, non, ils ne savaient pas que c'était d'Amalécites.
Ils sont restés dans...
Ils ont dit, comprends pas ce qui se passe, sauve-nous de ce peuple.
Des Amalécites, pardon.
Mais il t'a dit non.
Mais non, c'était que n'importe quelle des prières ne soit juste pas dirigée contre la Amalécite. Et qu'ils se disent que même une prière neutre ne serait pas dirigée contre...
Ce que vous dites est possible. Moi, ce qui m'intéresse, si je peux me permettre, c'est ce que Rachid dit. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les Chachamim abordent le problème. Or, si c'est comme les Chachamim l'abordent, on voit pas la logique. C'est une logique bêta-sounette. Vous avez un texte? Non? Vous voulez un texte? Oui?
Je ne sais pas lire.
Vous ne savez pas lire l'hébreu. On va vous trouver un texte en français? Attends, mais ça, c'est la Genèse. Voilà. Chapitre 21, verset 1. Bon. Ça, c'est fou. C'est fou. Si j'osais... Je vous laisserai sur cette question, on se dit bonsoir et ça s'arrête là. Non, mais vraiment? Non, mais je sais que c'est pas tellement tendance. Mais comment? Non, je vous promets. Moi, ça me suffit personnellement. J'ai gagné ma soirée.
C'est quoi le rapport avec ce qu'on a dit au départ avec Aaron?
Oui, alors Rachid dit parce que quand il est mort, la nanée Kavod ont disparu. Bon, c'est lié à ça. Bon, ok. Mais sur le fond, moi, ça me suffit. Essayez de comprendre cette histoire. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous... Ils veulent nous ouvrir à quoi? À quoi, ici? Moi, je vous dis, franchement, j'ose pas le faire, parce qu'ici, à Paris, les gens, ils sont un peu... Ils sont gâtés, il faut les couver, il faut un peu de cocooning, comme ça. Comment? Oui, Blédina, ou que sais-je, enfin, un peu materné, tout ça. Mais moi, ça me suffit, je suis content. J'ai appris quelque chose. Bon.
Non.
Quoi?
Non, non, on va pas s'échapper comme ça.
C'est... Non, on va pas. Ah, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ouais.
Le fait de pouvoir tromper quelqu'un, ça pourrait vouloir dire en fait ils ont voulu tromper quelqu'un, mais en gardant leur identité, en fait ils n'ont pas été jusqu'au bout de la tromperie.
Oui.
La logique, quoi.
Oui.
La
logique, mais pourquoi ils l'ont pas fait?
Parce qu'ils pensaient peut-être que ça suffirait.
Comme au risque de me répéter, il faut vraiment être bête, quoi.
Qui voulait finalement, si ça marche, fonctionner, rester les Amalécites et non pas les Cananéens qui ont.
Ah, ça c'est bien.
Ça arrivait peut-être partie de leur identité, ça fait partie de.
Ah, c'est bien, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas changer.
Ils ne pouvaient pas accepter de gagner en tant que Cananéens. Il fallait qu'ils aient quelque chose qui prouve, qu'il y ait quelque chose qui prouve que ce sont bien les Amalécites qui ont gagné.
Non, ça, non, j'entends mieux ce que vous dites. Qui pouvait pas changer quelque chose. Comment? Mais la langue, c'est pas plus l'identité que l'habit.
Ça dépend pour qui. Pour Edom, c'est plus l'apparence. C'est
comment?
La couleur en soi, Edom, c'est plus l'apparence. Donc, si c'est un descendant d'Edom, on pourrait croire que l'apparence est significative pour lui, est plus fondamentale que la langue.
Ah, voilà. Alors, vous voyez qu'on rentre un petit peu dans quelque chose là, hein, petit à petit. Est-ce que dans la Torah, on voit quelqu'un confronté à quelque chose d'un petit peu similaire?
Au moment de l'esclavage,
ça, la couleur.
Mais Yaakov, Yaakov qui s'est déguisé.
Jacob s'est déguisé. Alors, moi, je pense effectivement que le pendant de ça. C'est celui qui s'est vraiment déguisé, c'est Jacob. Et on va voir ça. Dans Bereshit. Comment?
Mais il a gardé. La voix était.
Ah.
Mais les habits étaient extérieurs.
Ah.
Comment? Plus logique de faire l'inverse pour tromper quelqu'un. Changer son apparence, mais conserver.
Pourquoi conserver?
Non, le plus logique, ce serait de tromper la personne en changeant intégralement. Mais.
Là, c'est bien, ça c'est vraiment, ça c'est le bon espion.
Oui, mais c'est plus facile de changer son apparence que son intériorité. Alors que eux, ici, ils ont fait l'inverse. Ils ont changé leur intériorité, ils n'ont pas changé leur apparence.
Voilà, donc si vous voulez, là, on voit, en tout cas, pour une raison que je ne sais pas vraiment, ils voulaient berner, mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas changer leur apparence, ils ne pouvaient pas. Et par contre... Changer leur langage. Le langage est quand même... changer la langue, moi je dirais... changer la langue, c'est plus personnel, quoi. T'as des gens, par exemple, qui changent de pays, ils gardent toujours l'accent d'avant. Vous voyez ? Nous, les immigrés, c'est beaucoup, beaucoup ça. J'ai pas. une de mes grand-mères, elle était contente parce que elle était habillée en française comme ça, mais son accent juif polonaise, les gens croyaient que c'était un accent anglais. Elle était contente. Les gens croient que je suis anglaise. Elle se disait ça elle-même. Mais en vérité, c'était un accent... elle n'a pas réussi vraiment à changer. C'est beaucoup. Changer sa langue, c'est incroyable. Changer sa langue, c'est incroyable. Et changent leur langue, mais on dirait ils veulent berner. Mais comme s'ils ne pouvaient pas. Comme s'ils ne pouvaient pas. Ça, on dirait, parce qu'ils veulent, quand même tromper. Ça, pourquoi ils ne le font pas? Alors, vous dites, oui, parce qu'ils veulent qu'Israël, machin, fasse une prière. On dirait, enfin, c'est possible. Mais c'est un autre commentaire que Rachid. Rachid dit, non, ils veulent qu'Israël se trompe dans la prière. Mais ils se trompent, alors ils ont qu'à se déguiser. Et non, on dirait que ça, c'est impossible. Alors, toi, tu dis très bien, parce qu'ils sont dans l'apparence. On va essayer de voir. Hein. Alors, vous avez dit, et il me semble que c'est tout à fait juste, que le passage qui est, on pourrait dire, à voir en miroir par rapport à ça, c'est Jacob qui va se déguiser. Alors, on va voir ça hein, dans Bereshit.
Mais peut-être qu'ils ont...
c'est en France.
Ils ont cru que les Juifs, les Israéliens,
il ferait
attention que au langage.
Oui, c'est ça. Souvent, les Israéliens n'étaient pas axés sur l'apparence, et donc ils ont préféré les attraper sur le coup de la langue.
C'est ça, ils ont cru que c'était comme c'est leur point fort, justement, voilà. C'est à ça qu'ils font faire attention.
Ah, et pas sur l'habit.
Ouais. Mais alors pourquoi ils ne pouvaient pas?
Non, moi je propose de dire pouvait pas. Yosef Haïm dit autre chose. On va voir. On va voir. Alors.
C'est un moment du chiaveau en Égypte, de l'esclavage d'Égypte. On dit que les Israël ont gardé trois choses, leur vêtement, leur nom et leur langue. Et les trois sont mis au même.
Ouais. C'est vrai.
C'est ce qui préserve la personne.
C'est vrai. Alors, donc c'est chapitre Kaf Zayin dans Bereshit, chapitre 27. Donc je passe un texte. Alors, bien, chapitre 27, Kaf Zayin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Yitzhak vieillit, et il veut bénir son chéri Ésaü. Il veut bénir son cher Esav. Voilà. Et il y a sa femme, Rivka, qui n'est pas du tout d'accord avec le choix de son mari. Elle dit à Yaakov, dis-moi, c'est une catastrophe toute cette histoire. Catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit? Yitzhak à Esav, mon chéri, mon fils, va me chasser un gibier comme j'aime, fais-moi un bon plat de gibier comme j'aime, et je te bénirai. Bon, ça c'est un truc de ouf, quoi. C'est tu vois, le grand sadique, fiston, je vais mourir. Fais-moi une bonne choucroute avec un bon Riesling bien frais, je te bénirai. C'est, quand tu lis la vie des Rabbanim, tu ne sais pas tellement l'ambiance qu'il y a. Je veux dire, tu vois pas le... C'est plutôt une autre ambiance. Lui, il dit, ouais, fais-moi... va me chercher un bon gibier, fais-moi un bon plat comme j'aime. C'est le texte, hein, un bon plat. comme j'aime. C'est un truc incroyable. Bon, c'est pas le cœur de notre sujet, mes amis. C'est un point très important. Pourquoi Yitzhak affectionnait particulièrement, avait une affection particulière pour Ésaü? C'est une question très importante. Mais c'est pas le cœur de notre sujet, là, maintenant. Bien. J'ai appris d'un de mes maîtres, Rabbi Yamin Ringer Zichrono Libracha. J'ai entendu une explication extraordinaire de ça. Quand même, on ne peut pas passer là-dessus sans regarder les versets. Verset, donc, chapitre 27, verset 3, chapitre Kavzein, verset Gimel. Ve'ata, sana, kelecha, telecha, ve'kashtecha, ve'tse, Asade Vetsudali Tsaïd. Et maintenant, Sana Kelecha. Est-ce que quelqu'un me traduit ça bien?
Soulève tes instruments.
Très bien, parfait. Soulève tes instruments. Parfait. Soulève tes instruments. Telecha, tes flèches. Vekashtecha et ton arc. Vetsé Asadé sort dans le champ. Vetsu Dalit Saïd. Chasse-moi un gibier. Alors, vous pouvez remarquer qu'à Saïd, il y a un E qui n'est pas prononcé. C'est pas qu'il y a une erreur typographique. Saïd, c'est le gibier, il y a un E. Or, il n'y a pas de voyelle, c'est Tsaïd. D'accord ? Là, il n'y a rien. Ça ne se prononce pas. Alors, regardez dans l'édition que vous avez le commentaire Balatourim qui apporte une explication classique.
Tsaïd.
Saïd, oui, Tsaïda Ketiv, il y a un E à la fin, et Yetera, un E en plus, chez Lamdo Hamesh Alachot Shrita, qui lui a enseigné les cinq Alachot de Shrita. Le Tsaïd, c'est-à-dire que dans l'abattage rituel, il y a cinq loi orale, c'est-à-dire la shrita, comment on fait l'abattage rituel, c'est pas écrit dans le chumash, c'est entièrement oral. Comment on fait la shrita, c'est pas de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ça s'appelle les 5 halakhot shrita. Et il lui a appris les 5 halakhot shrita. Et de ça, donc j'ai entendu de Rav Ringer Zichrono Libracha une explication magnifique qui explique pourquoi Isaac aimait Ésaü. Il pensait que Ésaü serait le Mashiach. Il pensait qu'Ésaü était le Mashiach. Parce que, en vérité, Ésaü et Yitzhak se ressemblaient beaucoup. Ésaü et Esav se ressemblaient beaucoup. Yitzhak, c'est une personnalité qu'on a du mal à cerner. Si je vous demandais, parlez-moi d'Abraham, c'est bon, vous allez me sortir 10 lignes, minimum. Allez, parlez-moi de Jacob, impeccable. Maintenant, parlez-moi, allez, voilà, dites-moi quelque chose sur Yitzhak. Allez hop. C'est-à-dire, oui, c'est celui que son père a amené sur la montagne pour le sacrifice. D'accord, c'est son père, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'aller avec son père, à part ça.
Non, il a eu une grande foi, un visage baroukoum, quand il n'a pas eu d'enfant pendant très longtemps, il n'a jamais cessé ses prières, il a beaucoup plus que juste...
Bon, mais ça, c'est un verset dans la Torah, ça. Dès le premier verset de Parashat Toldot.
Il y a plein de choses qui ont plein de sens avec un seul.
Il y a vraiment une histoire avec des puits.
Alors voilà, alors en vérité, si on regarde bien, dans Parashat Toldot, on voit, la Torah dit plein de choses sur Yitzhak. La Torah dit plein de choses sur Yitzhak, mais on n'y fait pas bien attention. Yitzhak, premièrement, c'est un énorme businessman. Je sais pas qui vous fait rire. Comment ? Non, beaucoup plus qu'Abraham. Beaucoup plus. Donc il est allé justement dans la terre des Philistins. Il a creusé des puits. Et il a eu une abondance extrême. On dit aussi à propos de lui qu'il a épousé Rivka. Et quand il était là-bas dans la terre des Philistins, il disait que c'était sa sœur, peut-être, pour qu'on ne l'embête pas. Et à un moment, c'est écrit dans le verset que Avimelech a regardé par la fenêtre, il a vu Yitzhak rigoler avec Rivka. Donc il a dit, ah tiens, c'est sa femme. Alors il a dit, mais pourquoi t'as dit que c'est ma femme? En vérité, je vais vous dire en un mot, Yitzhak était un énorme kiffeur. Comment? Bon, comme vous voulez. C'était un grand, grand kiffeur. Et moi j'explique comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. Mais quelqu'un qui est sorti de l'épreuve avec son père, et c'est quelqu'un, en vérité, les limites ne l'intéressent plus. C'est quelqu'un qui a failli être égorgé par son père. Et maintenant, la vie, on n'est pas là pour s'embêter. On est là pour faire des choses importantes et pour s'éclater. Moi, j'ai connu des gens, pas tout le monde évidemment, il y a eu des gens, par exemple, qui ont été rescapés de la Shoah, donc vous avez des gens de toutes sortes. Il y a du pire et du meilleur. Mais j'ai connu des gens qui, après, ont cassé la baraque. Ils ont cassé la baraque. Ça veut dire, les limites ne les intéressent pas. C'est autre chose qui les intéresse. Et ça, c'est Yitzhak. Mais en vérité, c'est ça ce qu'il demande à son fils. Et il a vu que son fils est sav, il est un peu comme ça. Il est un peu ouf. Il a dit, c'est un chasseur, on dit, à propos des sav. Et sav, c'est un chasseur. C'est quoi le chasseur? Moi, je vais vous dire, moi, je ne suis jamais allé à la chasse. Je suis allé plus aux chasses qu'à la chasse. Mais mais c'est quoi aller à la chasse? La chasse, d'après ce que j'ai cru voir, ne serait-ce que de ce verset, c'est le déferlement des pulsions. C'est pulsionnel. Tu es en plein dans le déferlement pulsionnel. Tu vas tuer, tu vas... Et il y a une identification aussi avec les animaux, avec les pulsions de survie, de prédateurs, etc. Donc tu as des pulsions qui sortent en toi. Et c'est ça ce que dit Yitzhak à son fils. Fais la shrita. C'est quoi la shrita? Les cinq halakhot shrita. Le hé, le cinq en hébreu, c'est le hé. Et vous voyez, que au début de Bereshit, c'est écrit Bereshit bara Elokim v'tashamim v'taret v'aretz ha'ita tohu v'vohu v'chosher al pnei tehom v'ruach Elokim rachefet al pnei hamayim. Le souffle de Dieu plane sur la face des eaux. Le souffle de Dieu, Rashi dit, zéro crochet Mashiach. C'est le souffle, c'est le hé. C'est quoi le souffle? C'est à travers la réalité de ce monde-ci, la réalité la plus puissante de ce monde-ci, prendre sur soi la volonté de Dieu. C'est ça la shrita. La shrita, ce n'est pas un acte de violence. La shrita, c'est un acte neutre. À l'intérieur du pulsionnel, de tuer l'animal, d'enlever la vie, eh bien, je prends sur moi, à ce moment-là, la volonté de Dieu. Donc, c'est la dimension du Mashiach. C'est Rochosh et le Mashiach. Donc, il voulait que Esav lève, comme vous avez très bien traduit, lève tes ustensiles, lève tes kélim, lève tes capacités, lève tes potentialités, élève tes potentialités, et va me chercher un gibier. Et quand il dit, amène-moi un gibier comme j'aime, c'est même un langage vulgaire. Ouais, amène-moi la bouffe comme j'aime. Ouais, mais ça veut dire que c'est lui-même, Yitzhak, il sert Dieu à travers le pulsionnel. C'est à travers le pulsionnel qu'il aime. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Midat Adin, on appelle la dimension de justice. On dit Yitzhak, on n'arrive pas à bien comprendre. Abraham, c'est le bon Abraham, il reçoit les voyageurs, et je fais la bise et tout. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Dans les détails, c'est pas vraiment ça, mais ça a l'air d'être. Bien. Yitzhak, on dit Midat Adin. c'est Midat Hadin. Mais là, on comprend. Midat Hadin, c'est-à-dire, c'est une dimension extrêmement difficile. C'est une dimension élitiste, en vérité. Dimension élitiste de frôler le délire et de servir Dieu à travers le délire. Et d'ailleurs, j'ai vu des explications dans le Maharal, c'est Midat Hadin, c'est-à-dire, c'est la justice, c'est-à-dire que soit le service de Dieu est parfait, s'il n'est pas parfait, c'est une catastrophe. C'est trop exigeant. C'est trop exigeant. C'est pour ça que Yitzhak est un des éléments des patriarches, mais ça sera Jacob qui fera la synthèse. C'est trop élitiste. Mais le Mashiach sera de ce type-là. David, le roi David, est du type. On voit David, c'est un tueur, il a des histoires de bonnes femmes tout le temps, des histoires, il tue plein de monde. C'est un zarbi. C'est comme Yitzhak. D'ailleurs, quand le prophète Samuel a vu la première fois David, il a dit, oh là là, on dirait Esaü. Il dit, qu'est-ce que c'est celui-là? Et parce que c'est vraiment un peu comme Esaü. Ok? Bien. Oui, monsieur?
Non, parce que vous avez dit qu'il est Midat Hadin, et juste avant, vous avez dit qu'il a vécu justement les épreuves. J'ai pas bien compris. Hein? Vous avez dit qu'il a vécu des épreuves et que maintenant il a un peu marre, si vous voulez, des.
Non, c'est pas les limites. Il va hors des limites, mais à l'intérieur du hors limite, il prend sur lui une volonté supérieure.
Mais quand même dans des limites.
Comment? C'est pas une limite. La limite sera ne pas se confronter à quelque chose. Il se confronte et à travers cette confrontation, il prend une volonté supérieure. C'est pas une limite, c'est une volonté supérieure. C'est autre chose qu'une limite. Bon, c'est pas le cœur de notre sujet, mais je veux voir le contexte, si vous voulez. C'est pas le cœur de notre sujet. Ok. Alors continuons. Donc il dit, amène-moi du manger comme j'aime. Donc c'est vraiment étonnant ce verset. Ce que je vous rapporte, j'ai entendu de Rav Ringer. Ok. Alors il y va, et Rivka, elle dit à Jacob, oh là là, c'est une catastrophe. En vérité, mon mari, papa, il s'est planté. Et ça, c'est pas le plan. Erreur de casting. Alors fiston, vas-y, il faut que toi, tu prennes la bénédiction. Sinon, c'est une grosse catastrophe. Sinon, le projet qui a été mis en place par Abraham de créer une famille qui créera un peuple dont la vocation de faire servir Dieu va se casser la figure. Alors Jacob, vas-y, il faut que tu ailles prendre la bénédiction. Alors, on va voir ça. Verset 8. Ve'ata beni shema bekoli la chair ani metzava otar. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je vais t'ordonner. Lerna el atson, va vers le troupeau. Fekarli mishab shne gedaye izim tovim, va me chercher deux bons chevreaux. Veseotam matamim lavicha kasher aev, je ferai un bon plat pour ton père comme il aime. Rashi explique. Parce que le chevreau a une chair un peu faisandée, un peu forte, comme le gibier. Veveta lavicha vachal bavur asher yevarechecha lifne moto. Tu amèneras à ton père, il en mangera pour qu'il te bénisse avant de mourir. Alors il dit, oui, mais papa, il va me tâter. Moi, je suis un petit fin comme ça, et mon frangin. Il est poilu partout, très machin. Il va voir tout de suite. Non, tu vas te déguiser, machin. Tu vas mettre les peaux. Tu vas mettre les peaux de bête sur toi. Tu vas être super poilu. Voilà. Alors, verset 15. Vatika Rivka et Bigde Esav Benagadol Achamudot Asherita Babait. Il avait des habits. Il avait Il avait un comment ça s'appelle, un blouson en cuir, parce que lui il était en costard costard style Bnei Brak, Jacob. Il a dit, mais non, non, si tu vas mettre les habits de ton frangin, le blouson, le machin, bidule. Et là, puis Rivka a pris les habits d'Essav, son grand-fils, à Hamoudot, les habits magnifiques qui étaient avec elle dans sa maison. Et là, habillé avec Yaakov, son petit-fils, son fils petit. Vet orod gedaye aizim ilbisha aliadav, et les peaux des chevreaux, elle l'a mis sur ses bras et sur la côté lisse de son cou. Vatiten et amatamim et alechem asher asata beyad Yaakov bena. Elle a donné le bon plat et le pain qu'elle avait préparé dans la main de Jacob, son fils. Et là, c'est là où ça commence. Vayavo el Esav. Il arrive chez Esav. Il arrive. Excusez-moi, je m'embrouille. Il arrive chez son père. Vayavo el Aviv. Excusez-moi, j'ai mal lu. Vayavo el Aviv, il arrive chez son père. Vayomer Avi. Il a dit papa. Donc il sait, le papa, il est aveugle. Vayomer. Il n'est ni miata beni. Je suis là. Qui es-tu, mon fils? Vayomer Yaakov el Aviv. Anochi Esav Chochera Asiti Kasher Dibarta Elai Kumna Sheva Veochla Mitzedi Bavur Tevaracheni Nafshecha. Yaakov a dit à son père, je suis Esav, ton fils aîné. J'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi s'il te plaît, assieds-toi, mange de bon gibier pour que ton âme me bénisse. Voilà. Alors, regardons Rashi. Rashi d'anthologie. Vayomer Yaakov el Aviv. Yaakov dit à son père. Donc, qui es-tu, mon fils? Anochi Esav Chochecha. Regardons Rashi. Yutet 19. Anochi Esav Chochecha. Anochi ou Amevilecha. Vesav ou Bechorecha. Je suis celui qui était amené, le plat, et Esaü, c'est ton fils aîné.
Donc en gros, il n'a pas menti.
Ouais, voilà. N'importe quoi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette salade là?
Il a trompé.
Comment? Non, attendez. Anochi Esav Chochecha. Anochi Esav Chochecha. Alors, Rachidi, nous savons qu'on dit. Titen émet le Yaakov. Tu as donné la vérité à Jacob. Jacob, c'est la dimension de émet, de vérité. Et s'il y a un roublard dans la Torah, c'est Yankele. D'ailleurs, il dit, il a dit, oh là, Aken, Aken, Ikare, Yaakov. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelait Yaakov, il m'a trompé deux fois. Yakveni, il m'a trompé pas Maïm, deux fois. Alors c'est un roublard, c'est un, il dit la vérité, rien que la vérité, il dit je jure, c'est Jacques Chirac, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Donc on voit, lui il se déguise, voilà. Lui se déguise. Ça, vraiment, lui se déguise vraiment. Alors, il ment pas. Pourquoi nos maîtres disent qu'il n'a pas menti?
Il ne dit pas comment on scande la phrase. Il dit je suis là, et ça avec ton aîné. Il dit pas Anochi, et ça avec Anochi. Je suis là, je suis. Et ça avec ton aîné. Et ça avec ton fils. Moi, je
ne peux
pas manger.
C'est
toi,
il mange.
J'ai fait comme tu m'as dit, que tu as l'allusion à autre chose. Tu tires par les cheveux.
Non, mais il a dit, j'ai fait comme tu m'as dit. Ouais, j'ai fait comme tu m'as dit, il aurait pu dire, c'est-il qu'à Chardy Barta. Il a dit, c'est-il qu'à Chardy Barta. Et là.
Oui, mais il n'avait pas d'allusion à autre chose.
Moi, j'ai fait une fois, tu m'as demandé de faire quelque chose, je l'ai fait. J'ai fait comme tu
m'as dit l'autre jour.
Non, mais alors, quoi, il ment.
Mais non, ils mentent pas parce qu'ils
ment pas. Oh, ils ment pas, la télé est là.
C'est Rachid qui dit qu'il ment pas. Mais lui, il ment.
Il ment. Mais Rachid, halte à la désinformation. Manipulation rabbinique.
Absolument.
Voilà.
Dans la manière qu'il a Rachid présenté, il veut nous faire.
Ah ouais, style.
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 Claire.
Style.
Anochi, il le dit. Ils savent. Mais ton idée, il lui dit.
Baratin.
Même s'il ment, c'est pas.
Comment ?
Même s'il ment.
Pourquoi Rachid dit ça ? Pourquoi ?
C'est dit. Pourquoi il expliquerait.
Pourquoi Rachid dit ce truc-là ?
Ben oui.
Alors regardez, au niveau du Shulchan Aruch, au Siman Kufnun Zain de Yoredea, 157 Yoredea, chapitre 157, disons que Dieu nous en préserve, il y a des persécutions. Disons qu'il y a des persécutions. C'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on a le droit, par exemple, de se déguiser en curé. On a le droit. Pour sauver sa vie, on a le droit de se déguiser en curé. La croix, par exemple, la croix n'est pas une idolâtrie. C'est un symbole qui n'est pas... Il ne voue pas un culte spécifique à la croix. C'est un symbole. Donc, à la limite, il aurait un habit avec une croix dessus, machin, ça roule. Maintenant, dire « je suis catholique », ça c'est interdit. C'est interdit, au risque de la vie. Mais c'est pas beaucoup de mots, hein. C'est trois mots. Mais ne pas prononcer ces mots, c'est au risque de sa vie, on n'a pas le droit. Donc, changer ses habits, et je connais quelqu'un, qui avait sa femme et ses enfants à Drancy. Je connais vraiment son nom, son adresse. Il avait sa femme et ses enfants à Drancy. Il s'est déguisé en curé. Il est allé là-bas. Il a dit, il y a erreur, ce sont des gens de ma paroisse. Il les a sortis. Et... enfin passons. Alors alors en voyant en vis-à-vis ces deux passages, est-ce que ça peut nous aider à rentrer, qu'est-ce que Rashi nous met en exergue que les Amalécites n'ont pas changé leurs habits?
Le même mot d'ailleurs. Dans un temps, c'est la vache, c'est. Oui, et là c'est béguer.
Le vouche.
Le vouche.
Oui.
Le vouche, etc. Et là c'est béguer. On ne parle pas du vouche ici dans le texte.
C'est vrai. Beged, vous savez, c'est important.
Beged, c'est aussi le traître.
Le traître. Beged, boged.
Ça peut être aussi le traître, l'amant.
L'amant, où est-ce que... Ouais. Où vous avez vu ça, hein? Trahir, oui. Maintenant, la suite... Oui, vous m'enverrez là, par mail, hein, parce que là, c'est... Je ne sais pas bien de quoi vous parlez. Mais tromper, oui. Bogued, c'est tromper. Bogued, oui. C'est trompeur. Alors, il me semble comme ça. Il me semble. Que. On est fonction de ses habits. Ses habits, c'est notre insertion dans le monde. C'est notre insertion sociale. C'est les habits, c'est on est. Je vous donne un petit exemple qui me vient comme ça, il n'est pas plus intéressant que ça. Mais hier, j'étais dans le TGV qui venait de Lyon à 18h. J'étais à Lyon hier et j'ai pris le train à 18h. C'est intéressant quand même. Donc le lundi 18h, il y a tous les businessmen qui rentrent. Et alors j'étais dans le TGV, il y avait quatre places là. Et les trois, ils sortent leur micro-ordinateur. Schlack. Bon, moi aussi j'avais mon micro-ordinateur dans mon sac. Alors, les businessmen, là, je leur dis, c'est l'heure de la prière. Non, mais sans blague, hein, je connaissais des gens qui, avant de prier, sortent un tapis, mais là, peut-être que c'est un nouveau culte. Non, surtout que je suis relativement facilement identifiable, hein, ça veut dire... Alors, il y a une bonne femme là, elle a pouffé de rire. Et les deux en face, ça ne les a pas fait rire. Ça leur a pas fait. Moi, je crois qu'ils n'étaient pas programmés pour rentrer dans ma blague. Ils manquaient un logiciel. Ils m'ont regardé. Ils n'ont pas appris comment réagir à ça. Ils n'ont pas appris.
Surtout en plus en ce moment avec tout ce qui se passe. Les closeurs, vous savez bien, et Julien et compagnie, alors, avec les musulmans, les prières dans les...
Ils n'ont pas... Oui, je leur dis... Moi, je connaissais le tapis de prière, mais je ne savais pas. Parce que là, les trois s'assiedent, ils sortent de trucs. On aurait créé un rituel, vraiment, aujourd'hui. C'est un rituel. Ah, ils m'ont dégoûté, ceux-là. Alors, mais je crois que c'était réciproque. Au moins, ça m'a rassuré. Mais le... J'ai changé de place, je ne pouvais pas. Non, mais pourquoi je rapporte cette insanité? C'est qu'en vérité, bon, on travaille, c'est important de travailler. C'est important, je veux dire... Travailler en libre, c'est... Non, ça veut dire... non, ça veut dire... C'est important de travailler, c'est important de... Il faut, je veux dire, il faut être responsable dans l'existence, on a des responsabilités, il faut bosser. Mais, à un moment, une telle identification que nous voyons, que nous vivons, une identification avec, finalement, ce qui n'est qu'un habit, ce qui est qu'un moyen, ce qui est un habit, ce qui est un moyen, ce qui est pas une fin en soi. Mais c'est comme un habit. Tu mets, comme on a vu ici, Yitzhak dit à Esav, prends Kelecha, tes outils, tes moyens, c'est des moyens que tu as. Mais ces moyens, prendre ces moyens comme finalement une identité, on s'identifie à ça. Que monsieur le docteur, maître, double maître, ça veut dire, un moment, on est là-dedans, et on ne peut plus changer, on ne peut plus bouger, on est complètement identifié dans notre position centrale, ou monsieur le rabbin, ou monsieur le rave, ou on est dans... l'habit devient notre identité. Et parfois, il faut changer des choses. Et ce qu'on change, vous l'avez dit, c'est... On va changer l'essentiel même. On va changer notre discours. On va dire des choses qu'on ne pense pas pour pouvoir s'adapter. Parfois, il faut s'adapter. Donc, on va changer même notre manière de parler. Comme, prenons par exemple, je prends un exemple. Tout le monde, depuis 50 ans, a vomi sur la droite et l'extrême droite. Non. Comment ? Bon, sauf toi. Mais tout le monde a vomi là-dessus. Mais maintenant, disons que la petite Marine, elle prenne le vent en poupe. Ouais. Ce que quelqu'un exécrait ou disait qu'il exécrait pendant des années, après, ça va être respectable. Ah oui ! Ah bah oui, c'est tout à fait... Ah bah, évidemment, l'immigration, mais on voit bien qu'est-ce que ça a donné. On voit bien qu'est-ce que ça donnait l'immigration. Il faut absolument faire une campagne très très rigoureuse contre l'immigration. Mais évidemment, regardons l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle a donné. Ouais, on ne peut plus, dans nos écoles, l'école, comment dire, on ne peut plus enseigner dans les écoles à cause des immigrés. Donc, il faut verrouiller. On change, c'est-à-dire, à un moment, on peut très très bien changer. D'ailleurs, ça s'est passé, ça c'est la politique. La politique, à un moment, on change. Ce que on bannissait à un certain moment devient tout à fait respectable 5 minutes après. Et on va le tenir. On change son langage. Mais par contre, son position, son positionnement central, social, ça c'est intouchable. On ne peut plus bouger. On ne peut pas bouger. Les habits, on ne peut pas bouger. Mais le langage, ah ça oui, ça c'est possible. Mais en vérité, le langage, c'est une catastrophe, parce que le langage, c'est nous. Ça c'est terrible. En vérité, et me semble-t-il, ce passage terrible, qui est sur les 3 versets de Parashat Roukat, c'est, je dirais, l'essence d'Amalek. Amalek prône l'homme n'est pas libre. On n'est pas libre. On est conditionné, complètement conditionné. On essaie de se débrouiller dans l'existence. Pour cela, on s'adapte. Mais on est coincé dans son existence. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Yaakov, parfois, il aurait pu dire, Yaakov aurait pu dire à sa mère, « Maman, je ne peux pas faire un truc comme ça. Passer pour Ésaü, je ne peux pas. Je ne peux pas. Passer pour, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Sa maman lui dit, « Fiston, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si tu n'interviens pas, ça va être la catastrophe. Si tu n'interviens pas, ça va être ton père va donner la pérennité du projet des patriarches à Ésaü, qui n'est pas bien. C'est mon fils, dit Rivka, mais il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas. Et ton papa, je ne sais pas, il a le béguin pour lui, il n'arrive pas à prendre du recul. J'arrive pas à discuter avec lui. Il faut que tu ailles. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Je peux pas. Il y a des fois, des choses comme ça. On ne peut pas. Il va faire quelque chose d'impossible. Il va faire quelque chose d'impossible. Il va se déguiser. Il va changer quelque chose de son existence. Mais par contre, et ça c'est Rashi qui relève de manière terrible, à aucun moment il a sorti quelque chose de faux. Il a trompé, mais il n'a pas dit des mots faux. Vu le contexte, il n'a pas dit quelque chose qui est faux. Il a trompé, par exemple, dans le Talmud, et c'est dans la Halakha, en Perse, donc à l'époque du Talmud, le culte, c'était le culte du feu. Le culte du feu, de Zoroastre, c'était le culte du feu. Et ceux qui disaient « Je suis un serviteur du feu, je suis un adorateur du feu », ils avaient une diminution d'impôt, moins 20%. Ouais. Alors l'Agmara dit qu'un talmudiste a le droit de dire « Je suis un adorateur du feu ». C'est quoi? Quand il dit un adorateur du feu, c'est parce qu'il y a un verset qui dit que Akadosh Borou Esh Uchlaou, c'est un feu dévorant. Donc on dit je suis un adorateur du feu, le feu c'est Dieu, c'est l'Éternel. Mais pas quelqu'un qui n'est pas un talmudiste, parce que quelqu'un qui n'est pas un talmudiste, pour lui Dieu c'est pas un feu dévorant. Dieu c'est le bon Dieu en vérité, c'est pas un feu. Il n'est pas en contact avec quelque chose qui le brûle. Oh Dieu, ça va, Dieu, on mange cachère, les chewing-gums qui sont sur la liste, ça va, c'est pas plus perturbant que ça. Mais, Mais quelqu'un qui étudie le Talmud, où là, vraiment, il a une confrontation terrible avec Dieu, il peut dire « je suis un serviteur de Dieu ». Ah, pourquoi ? Pour qu'on laisse tranquille avec les impôts. Mais ils trompent, c'est vrai, ils trompent. Mais aussi, ils ont capablement des règles absolument débiles pour les impôts. Alors, ils trompent, ils te trompent, toi tu les trompes. Ok. Donc, ici, on voit que Yaakov, face à une situation où il fallait qu'il prenne des responsabilités absolument fondamentales, mais il fallait qu'il change des choses. Yaakov, c'était le petit gentil, le petit mignon, etc. Il a fallu qu'il sorte de ses déterminations et qu'il prenne une responsabilité et une liberté. Donc c'est pour ça, si vous voulez, et j'ai vu des commentateurs, regardez dans la voie de la Torah, du rabbin Munk, qui était rabbin ici pendant 40 ans, le rabbin Munk, dans la voie de la Torah, sur le passage de Parashat Roukat, il dit, c'est de là que vient la coutume de se déguiser à Pessah. Ah, pour à Pessah, Pourim. C'est de là que vient la coutume de se déguiser à Pourim, justement, pour exprimer notre liberté et que nous ne sommes pas des Amalécites. L'Amalécite, c'est la quintessence des âges. C'est l'essence des âges. C'est-à-dire que, en vérité, tu l'as dit très bien, c'est on est complètement dans l'apparence. Mais dire l'apparence, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas dans l'existence. L'existence, c'est affronter notre liberté. Et il me semble que se déguiser à Pourim, c'est exprimer aussi notre liberté. C'est exprimer peut-être que il y a quelqu'un me demande des fois, ah mais Razizek, en quoi vous allez vous déguiser à Pourim? Alors moi j'ai tendance à dire, je suis déguisé toute l'année. Non, ça veut dire ça veut dire, est-ce que en vérité on notre existence, ce sont des habits, mais ces habits, c'est pas une fin en soi, ce sont des outils qui sont là, qui parfois il faut les changer. Quand on a la volonté de Dieu à faire, on a des mitzvot parfois à faire. Par exemple, prenons un exemple. Il y a une mitzvah de réjouir les mariés quand il y a un mariage. Il y en a qui aiment danser, il y en a qui détestent ça. Mais on s'en fout que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Tu dois réjouir les mariés. Ah non, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais tu ne peux pas. On s'en fout que tu peux pas, tu dois le faire. On s'en fout. C'est pas le problème. Tu dois réjouir les mariés. Tu dois le faire. Il y a des choses, il y a des responsabilités à prendre. Et pour ça, il faut changer des choses. Et c'est en changeant, en vérité, en changeant ses kélibs, en changeant ses habits, que commence la dimension d'existence. Et si on peut remarquer l'expression que dit Jacob, Anochi Esav Bechorecha. Que dit Rashi? Anochi Esav Bechorecha. Il dit je suis. Mais pas je suis en hébreu. Il y a deux mots pour dire je suis. Il y a Ani et Anochi. Anochi, c'est l'expression d'excellence de l'existence. C'est le même terme que quand Dieu parle dans les 10 commandements, il dit Anochi Hashem. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et là, il est dans la dimension d'une existence, d'une liberté d'existence, proche de la dimension Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu. Il touche à la liberté. Qui est exprimé dans la liberté de Dieu? Il est de l'ordre de l'existence et de l'ordre de la liberté. En vérité, les deux vont ensemble. Et il me semble que c'est ça la fête de Pourim. Parce que la fête de Pourim, quand on rentre dans toute la Megillat Esther, on voit que Esther et Mordechai ont pris des responsabilités parfois terribles. Enfin, des responsabilités terribles. Quand Esther, elle a dit, ok, maintenant, je vais aller voir Assuérus. Aller voir Assuérus, c'était pas possible. Elle a dit, ok, jeûner pour moi 3 jours. Jeûner le 14, le 13, le 14 et le 15 Nissan. Ouais. Le 15 Nissan, on jeûne le 15 Nissan. C'est quoi le 15 Nissan? C'est Pessah. Ouais, elle a dit jeûner, c'est maintenant il faut jeûner. Ouais, c'est Pessah, on jeûne. Et le troisième jour à Pessah, troisième jour de jeûne, elle dit je vais aller voir Assuérus. Elle a pris des responsabilités incroyables. Des responsabilités incroyables. Alors, et comment
voir,
ils n'ont pas fait la matza. D'accord, mais s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de Pessah. Je veux dire, le peuple juif était en danger. Ce n'était pas le moment de manger la charoset. Hein.
Est-ce qu'il fallait absolument 3? Elle ne pouvait pas faire 2?
Bon, enfin, il faut, là, si vous voulez, maintenant, on peut relire la Megillah. Ouais, relisons la Megillah. On peut relire la Megillah. Et on voit dans la Megillah que Esther a pris des responsabilités terribles. Je dirais un mot par rapport à ça. En vérité, nos maîtres disent, on a vu ça la semaine dernière, que Esther était la femme de Mardochée, la femme de Mordechai. Or, c'était la femme de Mordechai. Comment elle a supporté d'être prise comme favorite de cet empereur absolument délirant? Comment elle a supporté? Comment elle a supporté? C'est elle, c'était une sadéquette, je veux dire. C'était d'ailleurs le Rashi que nous avons vu la semaine dernière. Disait que c'est une tzadéquette, particulièrement la tzadéquette. On dit Esther Hadassa, Esther Hadassa. Le Midrash dit, parce que les justes sont comparés à la myrte qui sent bon. Voilà, que les tzadikim, leurs actes exhalent de bonheur. Donc c'était l'exemple même de la tzadéquette, qui est la favorite d'un fou furieux. De je ne sais pas quel fou furieux, prenez le fou furieux que vous voulez. Ouais, de comment? Oui, par exemple, ou un autre, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a de quoi même de se flinguer. Elle aurait pu se flinguer. Les Chachamim relèvent, elle aurait pu se flinguer. Comment? Pendant des années, elle était la favorite de ce fou furieux. Mais comment elle est passée d'être la femme de Mordechai, le tzaddik de la génération, à être la favorite de ce fou? Mais là, l'Acha était, elle a passé, c'est tué. D'accord. Elle a changé ses habits. Elle a changé tout son contexte social de tout ce qu'elle connaissait. Mais la volonté de Dieu était, t'as pas laissé tuer, supporte de vivre. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé le peuple juif, en supportant de vivre. Et même, il n'y avait encore pas Aman, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Supporter de vivre. Donc, se déguiser, c'est supporter en vérité La volonté de Dieu, même si la volonté de vivre la volonté de Dieu, même si cette volonté de Dieu, on ne la comprend pas, même si cette volonté de Dieu va contre ce qu'on connaît, contre nos habitudes, contre nos capacités, eh bien, c'est prendre sur soi la volonté de Dieu. Et c'est là, en vérité, que commence notre dimension de liberté et d'existence. Il me semble que ça, c'est vraiment la dimension. Le Pourim, c'est l'existence du peuple juif. Le peuple juif émerge à l'existence. Mais l'existence, c'est pas seulement avoir la capacité de manger encore des cheeseburgers. C'est quoi exister? Exister, c'est pas encore avoir la capacité de manger une pizza demain midi. C'est la pizza de ma midi, c'est ce qui va donner la c'est un moyen de vivre, mais c'est pas la vie. Exister, c'est être libre. Donc se déguiser, c'est une coutume fondamentale. C'est aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une coutume qui exprime la liberté, notre liberté. Ça, c'est ce que je dirais, c'est ce qu'on voit de ce passage. Je termine le cours un petit peu plus tôt que d'habitude. Parce qu'il y a notre ami Miro Klein qui fait un sioum de son étude. Alors on va y aller pour les... Hein, ok, c'est bon? Ça roule?
On peut se déguiser toute l'année. Hein.
Comment? Si on peut se déguiser toute l'année. Moi, je me suis déguisé toute l'année, moi.
Non, mais je parle pas de ça. Mais... Au-delà de la